Notre ordre du service place en tout début de culte, juste après la salutation et l'invocation, l'énoncé de la loi. Il diffère en cela d'autres protocoles qui commencent par la confession des péchés, qu'alors la loi vient suivre. Comme si nous étions d'abord pécheurs, en quelque sorte par nature, puis appelés à obéir pour nous corriger. Cela me semble contraire à des formulations catégoriques de Paul, par exemple, qui affirme dans un célèbre passage de l'Épître aux Romains « Je n'ai connu le péché que par la loi. Ainsi, je n'aurais pas su ce qu'était le désir si la loi n'avait pas dit « Tu ne désireras pas ». L'ordre de notre culte me semble donc plus juste. Il indique que le premier moment de ce chemin et la réception de ce que nous appelons les commandements. Mais que signifie cette image selon laquelle ils ont été reçus d'en haut, sur une montagne? À mes yeux, c'est plutôt clair. L'image indique que la loi ne vient pas des humains, en ce sens qu'elle n'est pas une fabrication humaine, élaborée par les humains pour satisfaire leurs convenances. Par exemple, selon un épisode très proche, les humains se fabriquent un dieu. Un dieu, dans ce récit, c'est exactement cela, une production humaine, un façonnage, un fétiche, c'est le même mot que façonnage, taillé dans des matières cherchées et recueillies afin d'être adoré pour convenir à ce besoin d'adoration que les humains ressentent, c'est-à-dire une idole. La loi n'est rien de tel. Les humains ne la fabriquent pas, ne se la fabriquent pas. Elle est reçue, descendue dans les têtes et les cœurs, comme, si vous voulez une comparaison, une inspiration. Son origine est plus qu'humaine, ou autre qu'humaine, transcendante. Donc, les humains reçoivent la loi, d'ailleurs, d'en haut, sur la montagne. Que dit-elle? D'abord ceci dans nos traductions, « Je suis le Seigneur, ton Dieu ». Ah là là, Seigneur. Ce mot, comme vous le savez, est la traduction en français du grec « kurios », qui signifie quelque chose d'analogue. Mais « kurios » lui-même est le terme choisi par des traducteurs grecs pour remplacer, c'est plus remplacer que traduire, un ensemble de quatre lettres hébraïques, imprononçables et séparées par une sorte de vide. Chaque fois que les Hébreux arrivaient au point de dire ou de lire le tétragramme, je les imagine butant sur une espèce d'obstacle, un scandale linguistique, une impossibilité de prononciation. Je ne sais pas comment ils faisaient. Sans doute employaient-ils des périphrases, éternel, saint béni soit-il, comme disait mon parrain, mon cher, bon, pas toi Jean, l'autre, celui de l'enfance, mon cher, bon, vieux parrain, si beau souvenir de mon enfance, béni soit sa mémoire. Tout d'un trait, quand il faisait des offices juifs à la maison, et disait « Le Saint béni soit-il » ou encore « Dieu ». Mais « Dieu » n'est pas une très bonne périphrase, parce qu'elle paraît indiquer que ce dont il s'agit, ce vide entre les quatre lettres, cet extérieur absolu, ce pur transcendant, est d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que par l'emploi de ce mot, analogue à ces dieux que les humains se façonnent pour répondre à leurs besoins, comme le taurillon, ce veau en or qu'ils se sont fabriqués pour pouvoir l'adorer, quand ils en avaient assez d'attendre Moïse, qui décidément s'attardait trop dans sa conversation privée au sommet de la montagne. Donc la première chose que dit la loi, c'est « Je suis cela ». Cet abracadabra indicible. Mais ce n'est tout de même pas suffisant. Alors la loi donne un repère, bien clair, lui. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. La loi résulte de cette même force, de cette même source qui a permis à un peuple entier de se lever pour échapper à la servitude. La loi est une sœur de la liberté. La loi n'a rien qui a servi ou qui enferme. Elle accompagne l'affranchissement. Et si le tétragramme désigne quelque chose, c'est cette origine commune, absolument transcendante à notre expérience, du soulèvement qui rend libre et de la loi qui rend juste. Alors, comment s'organise-t-elle, cette loi qui énonce 10 préceptes, 10 indications, 10 paroles, 10 commandements? Les 4 premiers concernent le rapport à ce que nous appelons Dieu. Ils prescrivent « Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas de statue, tu n'invoqueras pas mon nom pour tromper et souviens-toi du sabbat. » On remarque que ces commandements s'adressent à quelqu'un désigné par le pronom « tu ». On aurait pu attendre plutôt un pluriel, « vous », puisque l'adresse est faite à tout le peuple, indique le récit. Mais non, c'est bien à chaque personne que l'injonction est donnée. Surtout, ce qui frappe, c'est l'interdiction de tailler des images. On a dit parfois que c'était là une marque de rivalité entre ce Dieu et les autres. Et en effet, en commentant le second commandement, la prescription, comme on vient de l'entendre, indique « Moi, ton Seigneur, je suis un Dieu à la passion jalouse. » Mais s'il s'agissait seulement de jalousie, celui qui parle aurait dû interdire de faire les images des autres entités divines. Et il aurait pu, comme tous les monarques jaloux, demander au contraire qu'on multiplie les figures le représentant, lui, au détriment des rivaux, plus grand, plus à son avantage, plus glorieux. Mais non, il interdit toutes les images taillées, même de lui. Peut-être d'abord, surtout de lui. Et il va même plus loin. Il interdit toutes les images de quoi que ce soit. Humains, animaux, poissons, oiseaux. De ce commandement, le philosophe Emmanuel Kant a écrit que c'est le plus sublime. Et aussi, disait-il, celui qui provoque cet extraordinaire enthousiasme qu'on observe chez les musulmans ou les juifs qui lui obéissent de façon stricte. Parce qu'en fait, l'enthousiasme, le fait d'avoir Dieu en soi, qui soulève et emporte, c'est ce que veut dire le mot enthousiasme. L'enthousiasme ne s'exalte pas surtout, plus que tout, comme on le croit trop souvent, à la vue des images. Tout au contraire, il s'enflamme devant l'absence d'image, le vide d'image, le creux. C'est pourquoi, à mon avis, le nom hébraïque de ce que nous appelons Dieu est imprononçable. Car le nom peut être aussi une image, une idole. En disant Dieu avec trop de facilité, comme si le nom représentait bien ce dont il parle, nous sommes un peu idolâtres. Les 6 autres commandements concernent le rapport avec les humains. Tous, sauf un, sont formulés de façon négative. Il s'agit de ce qu'il ne faut pas faire, et même l'observation du sabbat est principalement définie par le fait de ne pas travailler. Seul l'honneur dû au père et à la mère est formulé positivement. Cela fait beaucoup, tous ces commandements. Beaucoup d'indications à suivre, à observer. C'est difficile, on s'y perd. Il ne faut pas représenter même les poissons, même les fleurs. Il ne faut pas tuer, même en légitime défense. Même en cas de guerre, quand on ne fait qu'obéir, ne pas tuer. Mais qui ? Seulement les humains ou les bêtes également ? Tout cela fait un casse-tête sans fin. Aussi, un pharisien, un docteur de la loi, s'adresse-t-il à Jésus et lui pose-t-il cette question : quel est le grand commandement de la loi ? C'est-à-dire, quel est le plus important ? Celui dont tous les autres découlent, celui auquel on doit s'accrocher lorsque les certitudes vacillent, quand la compréhension s'obscurcit, c'est-à-dire si souvent. Selon le récit, ce pharisien est de mauvaise foi. Il cherche surtout à tendre à Jésus un piège. Peut-être. Mais la portée de sa question dépasse sa mauvaise foi. On la comprend, cette demande, même s'il est bien difficile d'y apporter une réponse. On se l'adresse aussi. Elle me fait penser à la question enfantine que me posait ma fille, petite, et par quoi j'étais totalement désarçonné. Quelle est ta couleur préférée ? Violet, orange. Jésus, lui, ne se démonte pas. Il répond, non par un seul commandement, mais par deux. Beaucoup de choses vont par deux dans la Bible. Deux récits de la Genèse, deux récits de la création de l'homme, de la femme, deux fois l'énoncé des 10 commandements, des 10 paroles avec de petites variations, deux testaments et même 4 évangiles. Ici, Jésus répond deux fois. La première réponse est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Jésus ajoute « C'est le grand commandement, le premier. » Cette réponse appelle un peu de réflexion. D'abord, vous l'avez évidemment remarqué, ce commandement-là, tel que Jésus le formule, dont il dit qu'il est le premier, il ne figure pas dans les 10 paroles. À aucun moment, dans les 10 règles, il n'est dit ce que Jésus déclare ici, rappeler. N'avoir pas d'autre Dieu, ne pas faire d'image, ne pas invoquer le nom pour tromper, Jésus ne dit, ne cite rien de tel. Deuxième observation, Jésus rassemble les 4 préceptes en un seul, il les traduit et surtout il ajoute un mot qui ne figure pas dans l'original, c'est-à-dire dans les 10 paroles. Il dit que ce que les Grecs ont traduit par « théos », Dieu, ou « kurios », Seigneur, mais Jésus ne parlait pas grec. Nous ne savons pas ces mots exacts. Quel nom il aura utilisé. Cela, il s'agit de l'aimer. Jésus ajoute l'amour. Et pas qu'un peu. Aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute son intelligence. Jésus transfère des commandements d'exclusive, de non-figuration, de non-dénomination trompeuse dans un commandement d'amour. Troisième observation, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, aimer Dieu ? La formule nous est devenue familière. Mais si nous la replaçons dans son apparition, au moment où Jésus la propose, la fait surgir, l'invente, est-on sûr de comprendre ou même d'entrevoir ce qu'elle signifie ? Pas moi. Que s'agit-il d'aimer au juste ? Je sais ou j'entrevois ce que désigne le fait d'aimer quelqu'un, avoir du goût pour son corps, son visage, son regard et donc son âme. Aimer, c'est toujours aussi aimer un corps, non ? Ou à travers un corps, dans un corps. Mais Dieu, l'aimer, c'est aimer quoi ? Comment ? Surtout si l'on tente de tenir à distance toutes les figurations, les images plus ou moins bien taillées, les masques, les personnages, les emblèmes, les idoles. Alors, Jésus formule un second commandement qu'on ne lui a pas demandé. Le pharisien n'en voulait qu'un. Pourquoi répliquer une seconde fois à cette question qui n'appelait explicitement qu'une réponse. Mon hypothèse ne repose sur aucun savoir particulier. Ce n'est qu'une impression de lecture. Mais après tout, ces textes sont là pour cela aussi. Les lectures savantes sont utiles, nécessaires, précieuse, mais ces écrits sont faits aussi pour être reçus par tous, du simple point de vue de la bonne foi. De bonne foi, je ne puis me retenir de penser que si Jésus fournit cette seconde réponse, c'est parce que la première, au fond, n'est pas claire. Qu'on ne sait pas bien ce qu'elle veut dire. Et que donc, une nouvelle fois, Jésus traduit. Entre les deux indications figure en effet cette formule très célèbre et vertigineuse. Et voici le deuxième commandement, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui lui est semblable ? Je ne peux pas m'empêcher de lire que ce deuxième commandement est comme le premier, qu'il dit la même chose, en d'autres mots. Et que donc, si tu ne sais pas bien comment faire pour aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, eh bien, aime ton prochain, c'est pareil. En quelques mots, Jésus produit une opération d'une force extrême. Il dit qu'aimer son prochain, c'est équivalent à aimer Dieu. Je pense irrémédiablement au théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, qui, peu avant d'être torturé à mort par les nazis, sur ordre personnel de Hitler, à peine quelques semaines avant la chute, de sorte qu'on imagine Hitler bombardé dans son bunker, traqué sur le point de se suicider et qui s'occupe de faire torturer à mort un théologien avec quelques-uns de ses camarades, coupables d'avoir voulu en finir avec lui, acte donc pour Hitler de vengeance pure, sans avenir, sans horizon, devant les portes de la mort, Bonhoeffer avait écrit dans sa dernière lettre connue et retrouvée « Notre relation à Dieu n'est pas une relation religieuse à l'être le plus haut, le plus puissant, le meilleur que nous puissions imaginer. Cela n'est pas une authentique transcendance. » On pourrait gloser des heures. Cet être le plus haut, le plus puissant, ce n'est pas ça la transcendance. La transcendance, c'est notre relation à Dieu, elle est une vie nouvelle dans l'être là pour les autres. Opération qu'accomplit Jésus dans ces quelques mots. Remettre encore l'amour au cœur des commandements, car là non plus, il ne figurait pas dans les célèbres 10 paroles clamées par Dieu sur la montagne. Honorer, oui, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter, oui, mais aimer, non, ce n'est pas indiqué. C'est indiqué ailleurs, dans le Premier Testament, comme beaucoup ici le savent, que nous qualifions comme ancien, mais dans les 10 règles. Non, ça n'y est pas. Il substitue encore des indications positives aux commandements négatifs des 10 préceptes, et au passage, il demande de s'aimer soi-même, commandement qu'il n'invente pas, mais qu'il réinjecte ici, ce que Bernanos rappellera par inversion dans les derniers mots qu'un curé de campagne écrit dans son journal, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants du Christ. Phrase que Ricoeur a beaucoup méditée. Aime-toi toi-même, comme ton prochain, comme tu aimes ton prochain. Tu es un prochain, toi aussi. Quelqu'un d'autre va franchir un pas sur cette route, c'est l'auteur des Épîtres de Jean. Qui est-ce ? Une édition savante nous apprend qu'il y a beaucoup de parenté entre ces 3 lettres et le 4e évangile. La référence à l'évangile dit de Jean semble donc assurée. Mais qui est l'auteur de cet évangile dit de Jean ? La même édition savante indique « L'opinion reçue dans l'Église depuis le 2e siècle au moins est exprimée par Irénée en ces termes. Jean, le disciple du Seigneur, celui qui reposait sur son sein, publia son évangile à Éphèse après que les autres évangiles eurent été écrits. » Et l'édition reprend « En fait, l'apôtre Jean n'est jamais nommé sous ce nom dans son évangile. Le texte renvoie toujours à la figure du disciple que Jésus aimait. » Que nous donne donc à entendre celui que cette filiation présente comme le disciple que Jésus aimait, au point qu'il reposait sur son sein ? Au moins 3 choses distinctes qui sont comme 3 paliers, 3 marches. Je ne les reprends pas dans l'ordre, mais selon une progression qui me semble net. D'une part, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Le rapprochement des formules est très fort. Personne n'a jamais vu Dieu. Et donc, si les mots ont un sens, ni même Moïse, ni même Jésus. Nous ne le connaissons pas. Nous ne savons pas ce qu'il est, comment il est. Et dans cette absence radicale de savoir et de présentation, nous avons un extraordinaire recours. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Il y a une forte différence entre le fait de le voir, qui nous est interdit, et le fait qu'il demeure en nous, comme dans l'enthousiasme. Voir Dieu, ce serait le poser face à soi, comme un objet de connaissance ou de reconnaissance. Ceci est absolument exclu. Mais qu'il demeure en nous, c'est le sentir vivre au plus profond de notre intériorité, de notre dedans, dans ce fond de notre fond que la tradition appelle le cœur. Cela nous est accessible par un moyen très bien défini que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas dans un supposé rapport à Dieu que nous sommes en rapport avec Dieu. Ce rapport nous est donné comme un rapport entre nous. Cela que nous appelons Dieu est en nous exclusivement dans la mesure où l'amour est entre nous. Deuxième palier, celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu. C'est la même chose, bien sûr, mais avec une précision très nette. Il s'agit de celui qui n'aime pas, à qui l'accès à Dieu reste interdit. Celui qui n'aime pas, non pas qui n'aime pas Dieu, mais qui n'aime pas, tout simplement. Et enfin, troisième palier, Dieu est amour. Il n'est pas question ici de l'amour que nous porterions à Dieu, comme si Dieu était un être parmi d'autres, un être parmi les êtres, que nous devrions aimer spécifiquement. Il ne s'agit pas non plus de l'amour que Dieu nous porte, même si cette même épître en parle longuement aussi. Ce qui est désigné ici est l'amour que Dieu est. Voici la première définition de Dieu qui nous a été donnée. Dieu, c'est cela, l'amour. Dieu n'est rien d'autre. Où est l'amour ? Il y a cela que nous appelons Dieu. Croyez-vous que je force le texte ? Ce n'est pas sûr, car la lettre répète, de peur que nous n'ayons pas entendu, Dieu est amour. Et elle poursuit, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Le lien entre ce que nous appelons Dieu et l'acte d'aimer est présent depuis longtemps dans les textes bibliques, depuis le Lévitique, c'est-à-dire un texte très ancien. Mais cette phrase-là, qui nous semble si familière, un peu banale, galvaudée, affadie, Dieu est amour, apparaît ici pour la première fois. Elle ne figure pas dans l'Ancien Testament, mais pas plus dans le Nouveau, dans la bouche de Jésus. C'est ici qu'elle surgit, dans la première épître de Jean, c'est-à-dire presque à la toute fin de ce que le canon a constitué comme Nouveau Testament, à l'extrême fin de ce que les chrétiens reconnaissent comme la Bible, tout au bout du parcours biblique, des milliers de pages et presque de 1000 ans, comme s'il avait fallu tout l'énorme travail exprimé par la Bible, ces dizaines de livres, ces centaines d'années et ces milliers de pages, pour arriver à cette définition. Entend-on assez l'audace de cette extraordinaire formule, de cette briseuse de fétiches ? Ce n'est pas certain. Dieu est impossible à connaître, à voir comme objet. Dieu échappe, son nom même est trompeur. On ne sait pas de quoi on parle quand on parle de cela que nous appelons Dieu, en ne craignant pas assez de manier l'idole linguistique qu'est trop souvent ce nom, si nous le prenons comme une image taillée dans la langue. Eh bien, presque à son terme, le gigantesque processus biblique nous dit ceci. Vous ne savez pas ce que désignent ces quatre lettres ? Vous faites bien. Vous avez grandement raison de ne pas savoir. Mais ce que vous pouvez porter en vous, au fond du fond de vous, C'est qu'au moment où vous éprouvez ce transport interne qui vous enlève et vous projette au-delà de vous, et que nous appelons d'un nom un peu trop tiède « amour », cela que vous cherchez avec ces quatre lettres bouge, vous bouge au tréfonds de votre cœur. Amen.